Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 31 mai. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Marianne Murat. Au cours de cette émission, le journal, les sports, le bilan du Giro d'Italia et au menu également, Europa Voice. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 31 mai, le Premier ministre Anthony Albanese s'engage à ne pas perdre du temps au gouvernement avant d'annoncer son nouveau ministère cet après-midi. L'Union européenne s'engage à un embargo partiel sur le pétrole russe. Un journaliste français de la chaîne BFM TV est tué en Ukraine par les forces russes. Le Premier ministre Anthony Albanese s'est adressé au caucus du Parti travailliste pour la première fois depuis qu'il est devenu Premier ministre et a confirmé que le Labour serait en mesure de gouverner tout seul, sans alliance. Avant d'annoncer son nouveau ministère, le Premier ministre a souligné les réalisations de son nouveau gouvernement à la suite du voyage de la ministre des Affaires étrangères dans les îles du Pacifique et le voyage au Japon pour rencontrer les homologues du Quad.
We changed the statement that was made, and they very much welcomed our changed position on climate change. We're joining again the global effort, which we needed to do after 9 wasted years. And waste is what I want to talk about in 2 areas. I want to remind you that you shouldn't waste a day in government. We don't intend to.
La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a réagi à un accord de sécurité suspendu entre la Chine et les pays du Pacifique, affirmant qu'il appartient aux pays de la région de faire leur propre choix. Le ministre chinois des Affaires étrangères a effectué une visite des îles du Pacifique où il visait à obtenir un soutien pour un accord régional sur la sécurité et le commerce. Analyse de Stéphane Lagarde pour RFI.
Certains ont parlé d'un marathon, mais cette tournée de Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères dans le Pacifique, avait tout d'un blitz diplomatique. 10 jours, 10 pays et pour Pékin, des propositions fortes sur la table. Des millions de dollars d'aide financière sous forme de mémorandum dans le cadre des routes de la soie. Un accord de libre-échange avec l'accès au marché de la deuxième économie du monde. Même le président Xi Jinping y est allé de son message d'amitié, assurant que la Chine serait un bon frère pour les nations insulaires. C'est d'ailleurs ce qu'a encore répété le chef de la diplomatie chinoise au président de l'archipel des Kiribati. La Chine est l'ami le plus fiable des pays en développement, a déclaré le conseiller d'État. Nous continuerons à défendre et à protéger les pays en développement de petite et moyenne taille. Seulement voilà, tout n'est pas une question de taille. L'accord aurait fait flop. Dans une lettre adressée aux autres dirigeants régionaux cités par l'AFP, le président des États fédérés de Micronésie a qualifié l'accord de malhonnête, donnant les clés des industries vitales à la partie chinoise. Ne soyez pas trop nerveux et trop anxieux, a rétorqué Wang Yi à ceux nombreux dans le Pacifique à vouloir garder des relations équilibrées avec Pékin et Washington.
En Australie, les travaillistes formeront donc un gouvernement majoritaire après que le décompte montre que le Labour a obtenu les 76 sièges dont il a besoin. Josh Burns a remporté le siège de McNamara et il a déclaré sur l'ABC qu'il était ravi de faire partie d'un gouvernement travailliste sous Anthony Albanese.
We have an opportunity to deliver, and a lot of young people have never seen what a Labor government can do and what a Labor government looks like. But we can deliver climate action, we can deliver incredible economic reform, and we can deliver on the Uluru Statement from the heart, something that I'm really, really passionate about and something I really want to get cracking and working on straight away. A Labor government means opportunity, and I'm excited by it, and I hope that even if those people who didn't support us at this election, we work hard to give them some things to think about and to consider voting Labour at the next election.
Et on compte toujours les votes pour le siège de Gilmore en Nouvelle-Galles du Sud et le siège de Deakin dans le Victoria. David Littleproud est le nouveau chef du Parti national et la sénatrice Perrin Davey élue comme adjointe. Le Parti national mènera une opposition constructive selon David Littleproud. S'adressant sur la Network 10, le nouveau chef a déclaré que les nouveaux dirigeants sont les mieux placés pour reprendre le gouvernement lors des élections de 2025, mais qu'il s'appuiera toujours sur l'expérience de son prédécesseur, Barnaby Joyce.
This isn't a reflection on Barnaby's leadership. This was just about who was prepared to lead the party to 2025 election. And I was prepared to start that journey today because it is a big journey. We've got a long way to go. And we've got to start that not just with a leader that's prepared to be there in 2025, but be able to put a team that is going to be there in 2025, not shift gears halfway through. And that was the determination the party room got to. It's quite humbling that they've invested that in me.
Et Barnaby Joyce affirme qu'il a toujours eu l'intention de quitter la direction du parti.
I went to the election saying that I'd hold, on behalf of my colleagues, I'd hold every seat. And we did that, got close to winning another two. We've got ourselves another Senate position. I always said, and I'm surprised it never leaked, I always said I was transitioning out of the leadership and that was what I was going to do. I probably didn't want to do it yesterday, but that's life, you know, that's politics. And now there's a new leadership team and I wish them all the very, very best.
Les Verts auront 12 sénateurs dans le nouveau Parlement après avoir doublé leur siège de 6 à 12. La sénatrice des Verts, Sarah Hansen-Young, a déclaré que le parti avait des priorités claires dans les politiques qu'il poursuivrait.
In balance of power, the Greens are going to be fighting hard for climate action, for integrity to be restored to politics and to ensure that the battle of wealth inequality is tackled properly by this government and this parliament. For far too long, low-paid workers and those on the smallest incomes around this country have been forgotten. And we need to make sure we tackle wealth inequality as well.
Le président de la branche de l'Australian Medical Association en Nouvelle-Galles du Sud, Dr. Michael Bunning, lance le message que personne ne devrait attendre pour se faire vacciner contre la grippe, étant donné qu'il y a déjà tellement des cas de grippe au sein de la communauté.
It's not about do you fall into one category or another and do you have to pay or not. It's the same for everyone, very accessible, making sure the messaging is simple so that the most people possible in the community go out and get vaccinated. There is a significant early increase in flu cases this year. Influenza will put thousands and thousands of people in New South Wales in hospital over the next 3 or 4 months and will lead to a significant number of deaths.
De nouveaux chiffres publiés montrent que les Australiens consomment plus de tabac pendant la pandémie de COVID-19. Les chiffres publiés pour la Journée mondiale sans tabac révèlent que près d'un Australien sur deux a eu du mal à gérer le niveau de stress, dont 14% qui se sont tournés vers la cigarette. La directrice de Quit Australia, Dr. Sarah White, déclare qu'il a été difficile de faire passer des messages pendant la pandémie.
Every time we put one of those campaigns on air, we see increases in calls to quit lines. We see increases in people going to websites looking for support to quit. So they absolutely work. And one of the things that we were a little bit worried about is a lot of those campaigns were off air during the pandemic period because we had clear air for the COVID vaccination messaging. But we've also seen a lack of funding for those campaigns from the Australian government. And that, we think, has also been a really big issue.
Ailleurs dans le monde, le responsable de Reporters sans frontières affirme qu'un journaliste français tué en Ukraine avait, je cite, « très probablement été ciblé par les forces russes ». Christophe Deloire a fait ses commentaires suite au décès du journaliste de BFM TV, Frédéric Leclerc-Imoff. Monsieur Deloire affirme que le journaliste se trouvait à l'intérieur d'un véhicule d'aide humanitaire.
« From the beginning of the war, we haven't to notice that the journalists and other citizens, of course, civilians, are targeted by Russian forces. Here, the journalist, this young journalist working for the French TV channel, was in a bus which was clearly identified as a humanitarian vehicle So it is very likely that he was targeted by Russian forces.
Et le directeur de la chaîne d'information de BFM TV a réagi à la mort du journaliste. On écoute Marc-Olivier Faugier.
La rédaction est en deuil ce soir. C'est une partie de la famille qui ce soir disparaît. 3 mois qu'une quarantaine de journalistes se succèdent et vont plusieurs fois sur le terrain dans des endroits de plus compliqués. Certainement parce que cette mission était la plus compliquée. Il y a une forme de fierté à partager tout ça avec les téléspectateurs. Ce soir, ce qui domine chez nous, c'est évidemment plus que la tristesse, le chagrin, mais aussi une forme de fierté. On va évidemment continuer à le faire en hommage à Frédéric. Frédéric, ce qu'on peut vous dire, c'était pas une tête brûlée. Il pesait chaque minute de sa mission avec Maxime, avec Oksana. Ensemble, ils décidaient de où ils allaient, où ils n'allaient pas. Et c'est pas le goût du risque, c'est le goût du récit, le goût de l'histoire qui s'écrit en direct et pour lesquels Frédéric a perdu la vie ce matin.
L'Union européenne a accepté une interdiction partielle des importations de pétrole russe à la suite d'un sommet du Conseil européen dont l'objectif était de discuter d'un 6e cycle de sanctions contre le Kremlin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait supplié le Conseil d'imposer un embargo pétrolier contre la Russie suite à l'invasion de son pays. L'embargo est toutefois partiel, ne couvrant que le pétrole russe acheminé par voie maritime, ce qui permettrait encore une exemption temporaire pour les importations livrées par oléoduc. Dans une déclaration sur Twitter, le président du Conseil de l'Union européenne, Charles Michel, a déclaré que l'accord couvrait plus des 2/3 des importations de pétrole en provenance de Russie, ce qui exercerait une pression maximale sur Moscou. Et puis en Europe, l'inflation continue à atteindre des sommets. Les précisions de Pauline Glaise pour RFI.
L'Allemagne enregistre un record. Les prix ont augmenté de 7,9% sur un an en mai. Cela hisse l'inflation à son plus haut niveau depuis la réunification. Pour trouver pareil taux, il faut remonter à 1952 en Allemagne de l'Ouest. Les prix sont notamment poussés vers le haut par l'énergie qui a coûté 38% de plus et par l'alimentation, le tout sous l'influence de la guerre en Ukraine. À cela s'ajoutent les mesures de restriction anti-Covid en Chine, venues accroître les perturbations du commerce et des chaînes d'approvisionnement. Même cause, mêmes effets en Espagne, où l'inflation a de nouveau accéléré en mai pour atteindre 8,7%, malgré une baisse des prix de l'électricité. L'indicateur hors alimentation et énergie affiche même son plus haut niveau depuis 1995. En France, Bruno Le Maire anticipe un taux proche des 5%, raison de plus, assure le ministre de l'économie, pour continuer à contenir les prix de l'électricité et du gaz. Cette flambée des prix met un peu plus la pression sur la Banque centrale européenne, une semaine avant une réunion pour discuter du calendrier du resserrement monétaire.
L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a déclaré que tout le pays voulait de nouvelles élections à la suite d'une manifestation à Islamabad par ses partisans qui a entraîné à des affrontements avec la police. L'ancienne star du cricket, devenue Premier ministre, a servi pendant plus de 3 ans et demi lorsqu'il a été évincé le mois dernier par un vote de censure au Parlement. S'adressant sur Sky News, Imran Khan a déclaré qu'il prévoyait d'organiser de nouveaux rassemblements de protestation jusqu'à l'annonce de nouvelles élections. Il a récemment affirmé que sa destitution était le résultat d'un complot, je cite, « organisé par les États-Unis ». Les États-Unis ont nié tout rôle dans la politique intérieure du Pakistan.
The people of this country want one thing, elections. They do not want a foreign-imposed government where members of our party were bought by $1 million each, was offered to them to switch sides, and then the government was removed. And so therefore we feel that rather than someone else imposing a government on our country, let the people of this country decide.
Au Brésil, des pluies diluviennes et des inondations continuent à créer des dégâts et des ravages. Explication de Martin Bernard pour RFI.
Les pompiers, épaulés par certains habitants portés volontaires, redoublent d'efforts pour rechercher les victimes des inondations et prêter main forte aux survivants. Dans un seul quartier pauvre de la périphérie de Recife, un glissement de terrain a provoqué la mort de 20 personnes ensevelies sous la boue. Des hélicoptères tournant dans le ciel pour venir en aide aux personnes isolées. Des enfants sont également secourus par les pompiers à bord de bateaux gonflables. À Recife, l'une des plus grandes villes du nord-est du Brésil, la mobilisation est générale après des pluies torrentielles. En l'espace de 12 heures, il est tombé 236 millilitres d'eau, soit près des trois quarts de tout ce qui était prévu pour l'ensemble du mois de mai. Un véritable déluge qui risque de provoquer de nouveaux glissements de terrain, selon les autorités, et faire de nouvelles victimes dans les bidonvilles où de nombreux logements sont construits dans des zones à risque.
Et en Australie, selon le bureau de la météo, on peut s'attendre à des températures glaciales, des vents forts et même de la neige, alors que l'hiver arrive en force. Des vents violents sont prévus sur Sydney et la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud pour ce soir, tandis que de forts vents d'ouest devraient atteindre les Blue Mountains demain, mercredi 1er juin. Jackson Brown, du bureau de la météo, a déclaré que la vague de froid était due à un système de basse pression au-dessus d'Adélaïde, qui se dirige maintenant vers la côte est.
Powerful cold front moves across southern Australia with damaging to possibly destructive winds and low-level snow. Now this system is moving towards the east with a large pickup in weather expected across southern Queensland, New South Wales, ACT and Melbourne.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 20 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 11, Hobart 11 également, Canberra 9, Sydney 18, Brisbane 21, Darwin 32 et à Alice Springs, maximal de 15 degrés. Un rappel des grands titres de ce 31 mai, le Premier ministre Anthony Albanese s'engage à ne pas perdre du temps au gouvernement avant d'annoncer son nouveau ministère cet après-midi. Un journaliste français de la chaîne BFM TV, tué en Ukraine par les forces russes, fin du journal. Merci de rester avec nous et dans quelques instants, le journal des sports avec Marianne.
Journal des sports du mardi 31 mai 2022 et on commence avec les derniers résultats de Roland-Garros et il faut le dire, c'était une journée incroyable ce lundi. Ça y est, on connaît les affiches des quarts de finale dans le tableau masculin. Marin Cilic a battu le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev en 3-7. Il affrontera un autre russe, Andrei Rublev, demain. On l'écoute.
Yeah, it was absolutely fantastic match from the first point until the last. I enjoyed the atmosphere, enjoyed a night session here, played incredible tennis, one of the best matches of my career from start to finish, and just enjoyed to be here.
Et demain également, c'est un choc scandinave, le numéro 8 mondial, Casper Ruud, qui affrontera le Danois Holger Rune, auteur de l'autre exploit du jour, puisqu'il a battu le finaliste de l'an dernier, le Grec Stefanos Tsitsipas, Olivier Pron.
Je ne peux pas vous décrire ce que je ressens là maintenant. J'étais si nerveux à la fin, mais la foule a été incroyable, comme depuis le début du tournoi. Je vous suis reconnaissant, vous êtes formidable.
19 ans, une voix et un sourire d'ado, mais déjà une mentalité de guerrier sur le court. Passé en un an du top 400 au top 100 mondial, Holger Rune, coaché mentalement par sa maman, est aujourd'hui 40e dans la hiérarchie. Le voilà en quart de finale, après avoir sorti les têtes de série numéro 14, puis 4. Pas si surprenant pour Patrick Mouratoglou, qui dirige l'académie où Rune s'entraîne depuis 6 ans.
Dès le début du tournoi, en battant Chapovalov, il a montré que son niveau de jeu était très élevé. Donc c'est une demi-surprise. Vous ne pouvez pas l'imaginer en quart. quart, mais on ne pouvait pas non plus ne pas l'imaginer en quart dans l'absolu. Pourquoi pas ? Sachant que c'est un joueur qui est ultra ambitieux et qui est convaincu qu'il jouera les premiers rôles très rapidement.
Puissant, déterminé, malin, ambitieux, travailleur acharné, dit-on, suffisant pour gagner le tournoi dès sa première participation. Le Suédois Mats Wilander, trois fois titré ici, y croit.
Voyons voir Nadal, premier Roland-Garros, moi premier Roland-Garros, cela importe peu. Le tennis aujourd'hui, ce n'est pas une question de niveau, mais de mental. Si vous en avez, vous y êtes pour longtemps. Et avec Alcaraz, ces gars-là en ont.
You'll be around for a long time and they're doing it.
A confirmé ce mercredi en quart contre le Norvégien Casper Ruud.
Le début des quarts de finale, c'est aujourd'hui donc un Alexander Zverev qui affronte Carlos Alcaraz, puis l'Espagnol Rafael Nadal qui rencontre le Serbe Novak Djokovic, 59e duel du nom. Du côté des femmes, Iga Swiatek, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale malgré la perte du premier set face à la chinoise Qin Wen Zheng. La polonaise, numéro 1 mondial, l'a finalement emportée 6-7, 6-0, 6-2, on l'écoute.
I tried to loosen up my hand a little bit and she played really good tennis with heavy top spins and well, the key in second set was kind of not letting her do that again, so I'm pretty happy that I could play a little bit faster and put pressure on her. I feel actually a little bit better because I felt like I was a little bit in trouble and I was able to come back and really refocus and find other solutions, so that's great. You know, I was leading in the first rounds and then I finished it right and I tried to take, you know, some positives from the first set. Obviously, it wasn't like the best that I lost from, I don't know, 5-2 or 5-3. But still, I was able to come back in second set and really lead the game again. So I take that from the match, yeah.
Iga Swiatek qui affrontera l'Américaine Jessica Pegula, 11e joueuse mondiale. Dans le reste de l'actualité sportive du cyclisme, et clap de fin pour le Tour d'Italie, avec la magnifique victoire de Jai Hindley, premier Australien vainqueur du Giro. Il l'emporte sur l'équatorien Richard Carapaz, champion olympique en titre et vainqueur de l'épreuve. En 2019, on écoute Jai Hindley.
C'est un beautiful feeling, really. Yeah, a lot of emotions out there today. And yeah, you know, I had in the back of my mind the... You know what happened in 2020, and I wasn't going to let that happen again, to be honest. So yeah, to take the win is it's really incredible.
Just 1 second between you and Carapaz at the time check. Were you aware of everything?
Yeah. I mean, I was getting updates, and you know, I felt pretty good on the bike. Like, I didn't feel like I was really, fighting it. Like, it felt pretty good. So, yeah. And then I was receiving the time checks and I knew it was a decent ride. So, yeah, in the end, I really wanted to take this this descent pretty cautiously. And, and then I just gave everything to the line. But, yeah, it was... Yeah, it's an incredible feeling, honestly.
Podium ceremony coming soon. You're the first Australian to win the Giro d'Italia.
Yeah, it's it's really incredible, man. Like, yeah, I'm really really proud to be Australian and happy to take this one home.
Et pour plus de détails sur ce grand tour, eh bien restez sur SBS French puisque dans un instant, dans une chronique à part, nous serons en ligne avec Christophe Mallet. Christophe qui a suivi le Giro pendant un mois et qui nous emmène dans les coulisses de la course et de cette victoire australienne historique. En attendant, on va parler football et la suite de la finale de la Ligue des Champions. Trois jours après la victoire du Real Madrid sur Liverpool, eh bien, l'événement continue à faire parler de lui. Incidents, violences, les autorités françaises sont sous le feu des critiques pour leur gestion de la soirée et notamment leur comportement face aux quelques 40 000 fans restés à l'extérieur du Stade de France. Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a tenu hier une conférence de presse. Écoutez.
D'abord, la doctrine de maintien de l'ordre français a permis d'éviter des morts et des blessés samedi au Stade de France. C'est un premier point. Deuxièmement, la comparaison avec la Coupe du Monde de rugby ou les Jeux Olympiques me paraît assez disproportionnée, sachant qu'il n'y a manifestement que dans le football, et singulièrement que dans le football avec certains clubs anglais, qu'il y a ces événements. Je rappelle que la France a organisé de très nombreux matchs de rugby et de football à très haut niveau ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, sans aucune difficulté, et même avec des clubs français dont parfois il y a de grandes difficultés, et c'était notamment le cas de la finale de Coupe de France quelques jours plus tôt, il n'y a pas eu ces difficultés que nous avons constatées là. Je rappelle d'ailleurs malheureusement que Liverpool-Tottenham en 2019 à Madrid a posé exactement les mêmes problèmes qu'une finale à Wembley, il y a quelques années de ça, a posé exactement les mêmes problèmes. Donc comportement, désorganisation et faux billets organisés avec notamment, je le rappelle, l'entraîneur de Liverpool qui, il y a quelques jours, c'est public, a appelé à venir en France pour les supporters, même non munis de billets. Donc nous sommes retrouvés avec des dizaines de milliers de supporters britanniques, dont une partie d'entre eux avait tout à fait respecté les règles, avait acheté des billets, ou alors s'était mis dans les fan zones. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes dans les fan zones sans aucun incident, et qui ont respecté les règles, évidemment, de l'UEFA et de notre pays, et une partie infime, mais malheureusement extrêmement vivante, si j'ose dire, qui a bousculé le système de sécurité. C'est parce que nous avons une tactique de maintien de l'ordre qui, je crois, est proportionnée, qui a permis d'éviter ces morts et ces blessés.
Toujours en foot, incident également du côté de Saint-Etienne après la défaite des Verts face à l'AJ Auxerre dimanche soir. Un but partout, puis 5-4 au tir au but. C'est une énorme désillusion pour les joueurs stéphanois puisqu'ils sont donc relégués en Ligue 2. Conséquence, envahissement de terrain, tir de fumigène et échauffourée en dehors du stade Geoffroy Guichard. Deux joueurs ont été blessés. Et du côté du football féminin, eh bien, l'Olympique Lyonnais remporte son 15e titre de champion de France après sa victoire 1-0 contre le Paris Saint-Germain. Les Lyonnaises qui reprennent leur titre à celles qui avaient mis fin à leur hégémonie, c'était il y a un an. Et on termine ce journal par un mot de Formule 1 et la victoire de l'équipe Red Bull avec Sergio Pérez, le Mexicain, parti de la deuxième ligne de cette 7e épreuve de la saison 2022, l'emporte malgré une course chaotique marquée par la pluie et puis plus d'une heure de retard. Il l'emporte devant l'Espagnol Carlos Sainz et le Néerlandais Max Verstappen. On écoute le grand gagnant Sergio Pérez.
It's an unbelievable day. I'm super happy for today's race, for my team, my family, my country. It's just a very special day for me. The team did a fantastic job. They did everything right and they put everything together when we needed.
Charles Leclerc qui était pourtant prédisposé à gagner, hein, puisqu'il faut savoir que sur ce Grand Prix de Monaco, c'est la première fois depuis 2011, donc un peu plus de 10 ans, que celui qui part en pole position ne remporte pas ce Grand Prix. Désillusion également pour l'Australien Daniel Ricciardo qui termine ce Grand Prix de Monaco en 13e position. Voilà pour votre journal des sports de ce mardi 31 mai. Dans le journal des sports de ce mardi 31 mai, en cyclisme, Jai Hindley remporte le Tour d'Italie, son premier grand tour et la plus belle victoire de sa carrière. Nous sommes en ligne avec Christophe Mallet. Christophe, vous avez présenté le podcast officiel de SBS sur le Giro, podcast qui est proposé par Zwift. Vous étiez au plus près de cette course pour cette édition de 2022.
Et c'est historique, hein, c'est la première fois de toute l'histoire du cyclisme qu'un Australien, Jai Hindley, remporte ce Tour d'Italie. Alors ça fait 113 ans que le Tour d'Italie existe, c'est la 105e édition, il y a une différence parce qu'il y a eu quelques guerres mondiales malheureusement entre tout ça. Et bien oui, c'est la première fois depuis tout ce temps-là qu'un Australien remporte cette course qui est une course mythique. Il y a trois grands tours dans l'année, le Tour d'Italie, le Tour de France et le Tour d'Espagne. Et cette fois-ci, et bien, c'est au tour de l'Australien Jai Hindley qui a vraiment, on va pas dire qu'il a dominé toute la course, mais il a été présent depuis le début. C'est vraiment un coureur que nous à l'équipe d'SBS Sport on a suivi depuis vraiment tout le début de de ce Giro. On savait qu'il pouvait faire quelque chose. Il a fini deuxième il y a deux ans. Il était vraiment très très près de pouvoir remporter ce Giro, donc il a énormément appris il y a deux ans. Il a vraiment eu une année calamiteuse l'année dernière en termes de santé, donc cette année c'est vraiment un renouveau pour quelqu'un comme Jai Hindley. Et il est arrivé, il a gagné ce Giro l'avant-veille de la dernière étape qui était hier, donc un contre-la-montre. Donc la veille de ce contre-la-montre, il y avait une étape de montagne qui était très compliquée, on appelle ça l'étape reine, hein, la Queen Stage de ce Giro, et Jai Hindley a craqué, le grand favori de cette épreuve, Richard Carapaz. Il l'a craqué sur les trois derniers kilomètres, ça s'est vraiment joué à très peu de choses, et à la fin, Jai Hindley avait 1 minute 25 d'avance en arrivant sur le contre-la-montre, ce qui était largement assez. On le savait depuis le début, il fallait pas non plus être trop confiant, mais on le savait que c'était largement possible, et au final il n'aura perdu que 6 secondes de cette minute 25, donc il y avait largement le temps pour Jai Hindley de remporter. Il a 26 ans, Jai Hindley, il vient de Perth, et c'est toute l'Australie occidentale qui va célébrer en tout cas son nouveau champion, on l'espère. La dernière fois qu'un Australien avait gagné un grand tour, c'était Cadel Evans en 2011. Donc ça remonte, juste pour la petite anecdote, la dernière Français qui a gagné un grand tour, ça remonte encore plus loin, c'est 1985 avec Bernard Hinault.
Alors justement, les Français, Christophe, que pouvez-vous nous dire du palmarès bleu-blanc-rouge ?
Ils n'ont pas démérité, les Français. Il y a Arnaud Démare qui remporte le maillot Cyclamena, qui est donc le maillot du meilleur sprinter. Au final, il aura remporté 3 étapes avec son équipe française des Jeux Groupama. Et Arnaud Démare, c'est un des grands sprinteurs mondiaux. Alors c'est vrai que certains sprinteurs n'étaient pas là, donc il y avait vraiment de la place pour lui. Cavendish n'était pas non plus au mieux de sa forme. Il a perdu ce qu'on appelle son poisson pilote, donc le dernier coureur qui l'emmène à la ligne très rapidement dans ce tour. Donc du coup, Cavendish n'a pas été performant surtout, mais ça n'enlève rien à la performance d'Arnaud Démare. Arnaud Démare a quand même remporté 3 étapes sur ce grand tour. Il y a 2 ans, Arnaud Démare, le même tour d'ailleurs que Jai Hindley, Arnaud Démare avait remporté le même maillot Cyclamena, donc le maillot du meilleur sprinter, un maillot qui est d'une couleur violette. Ce maillot-là, il l'avait remporté avec 4 étapes. Et bien cette année, il l'a remporté avec 3 étapes. Et il faut se rappeler également que Arnaud Démare est arrivé sur le Tour d'Italie avec 0 victoire cette année. Donc il a eu 3 victoires cette année. Ces 3 victoires, il les a eues sur le Tour d'Italie, et à la fin il remporte ce maillot, donc Cyclamena, qui est le maillot suprême donc quand on est un sprinter, en tout cas sur le Tour d'Italie. Il faut aussi noter quelques belles performances, celle de Guillaume Martin qui a vraiment fait le yo-yo dans cette épreuve. Il a une fois fini dans le top 10, après il a fini en perdant presque 45 minutes l'étape d'après, refinir dans le top 10 le surlendemain. Enfin, il a vraiment fait le yo-yo dans les étapes, mais c'est comme ça que Guillaume Martin fonctionne, et au final il finit dans le top 20, donc on est assez content pour la performance de Guillaume Martin qui est d'ailleurs un philosophe également, qui a écrit 2 livres de philosophie qui sont très intéressants sur la performance et l'amour du vélo. Ça vaut vraiment le coup de lire ça. Et puis il y a bien entendu Romain Bardet qui est la grande déception de ce Tour d'Italie, parce qu'il était très en forme vraiment. Romain Bardet, il aurait pu gagner ce Tour d'Italie, mais avec des si, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut. Et Romain Bardet, eh bien, malgré toute sa forme, eh bien, il a attrapé une gastro sur l'étape. Et comme les coureurs sont tellement fins, eh bien, une gastro, ça vous ruine complètement. Déjà, ça vous ruine, vous et moi, Marianne. Alors imaginez si vous faites 50 kilos et vous êtes un coureur cycliste et sous des chaleurs incroyables. Il a abandonné le jour où il a abandonné, il faisait 40 degrés dehors, donc il n'en pouvait plus avec une gastro. Donc c'est vraiment très dommage pour Romain Bardet, parce que c'était vraiment l'espoir d'avoir un grand tour encore une fois pour les Français. Mais bon, à charge de revanche.
Donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire pour le Giro masculin. Il y a le Women's Tour qui commence la semaine prochaine. Il y a également le Giro Donna en juillet aussi. Hein, c'est le Tour d'Italie féminin. Donc on n'en a pas fini avec le cyclisme, car surtout le prochain grand tour, hein, c'est le Tour de France bien sûr. Et Christophe, il débute dans moins de 2 mois maintenant.
Bien oui, le calendrier est vraiment constant hein, pour les courses de vélo. Les courses de cyclisme, c'est toutes les semaines. Alors c'est vrai, il y a le tour féminin de Grande-Bretagne qui commence d'ici peu, la semaine prochaine. C'est toujours une belle course. C'est une des épreuves clés du calendrier féminin, même si cette année, il y a un Tour de France féminin, premier Tour de France féminin depuis les années 90, la grande époque de Gianni Longo. Donc ça va être un des points culminants du calendrier féminin, à vraiment à voir. D'ailleurs, vous pourrez le voir en intégralité sur SBS, on aura la chance d'être là-bas en tout cas pour vous le faire suivre également tout de suite après le tour masculin. Et vous l'avez dit, bien entendu, l'épreuve reine du calendrier mondial du cyclisme, c'est le Tour de France, que vous pourrez suivre en intégralité sur SBS, à la fois sur les réseaux sociaux mais également à la télévision et sur internet. C'est vraiment l'épreuve reine, et on attend énormément de ce Tour de France, parce que eh bien, ça va être un très beau parcours qui ne part pas de France, qui partira du Danemark et de Copenhague.
Merci Christophe.
Merci Marianne.
13h38 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et nous passons maintenant à un extrait de Europe Voice. On est déjà à la 97e épisode.
Europa Voice numéro 97, et comme chaque épisode, hein, le pilier, celui qui ne bouge pas, c'est Nathanaël Bloch. Nathanaël, bonjour.
Bonjour Marianne.
L'Australie, hein, qui s'est dotée d'un nouveau Premier ministre, Anthony Albanese, un travailliste à la tête de l'État fédéral. Il succède au libéral Scott Morrison. D'ailleurs, Anthony Albanese et Emmanuel Macron se sont parlé au téléphone hier. Est-ce que vous savez ce qu'ils se sont dit ?
Alors Marianne, j'étais pas dans l'intimité de cette conversation, mais l'Élysée et d'ailleurs le gouvernement australien ont donné des retours de cet appel entre Albanese et Emmanuel Macron. Peut-être première chose aussi à signaler, c'est que, et ça montre quand même, hein, ça dit quand même de cette relation France-Australie, c'est que les deux se sont pas précipités pour se féliciter après les résultats. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron doit venir bien dans les 10e positions. De félicitations pour le leader travailliste albanais. Ça, c'est la première chose. Ceci étant dit, le président de la République, Emmanuel Macron, a plutôt fait preuve, j'allais dire, de bonne volonté pour reconstruire ou repartir sur des bonnes bases avec son homologue australien. Il a parlé des relations historiques, hein, qui ont été tissées entre la France et l'Australie, et puis surtout, il a fait preuve, et là, puis là, je cite le communiqué de l'Élysée, il a rappelé l'immense gratitude de générations de Français pour le combat mené par des jeunes Australiens dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Fini la citation, ce sacrifice ne sera jamais oublié, a fortiori au moment où la guerre est revenue au cœur du continent européen. Fin de la citation. Donc voilà, Emmanuel Macron a utilisé l'histoire un peu plus vieille pour faire oublier les déboires de l'histoire présente,
actuelle.
Voilà, actuelle. Et puis après, et c'est assez bien joué, hein, derrière de la part du président français et puis même pour Albanese lui-même, c'est que voilà, il fait aucun doute, surtout après la déclaration de Le Drian qui a dit que la défaite de Morrison lui allait très bien. Les deux, hein, Albanese et Macron, ont aussi pris note de cette rupture de confiance qui a eu lieu, hein, et rappelons aussi les mots de Le Drian à l'époque, qui n'a pas du tout utilisé un langage diplomatique, hein, il avait parlé d'un coup dans le dos. Donc voilà, Emmanuel Macron a quand même voulu rappeler qu'il y avait une rupture de confiance, mais que l'idée, c'est de rebâtir une relation bilatérale, de refonder cette confiance, parce qu'il y a des enjeux en fait qui dépassent la relation bilatérale, et c'est bien joué aussi de la part d'Emmanuel Macron, parce que on le sait, hein, il a été un des fondateurs du développement de toute cette théorie autour de l'axe Indo-Pacifique, hein, de cet axe qui va de Paris à Canberra, enfin même jusqu'en Nouvelle-Calédonie, via New Delhi et Canberra, pour justement éviter la Chine. Et donc, Emmanuel Macron, ce qu'il avait à cœur de dire à Albanese, c'était que il va falloir rétablir la relation bilatérale, parce que derrière, il y a des enjeux globaux, il y a le climat, et puis il y a les défis stratégiques en Indo-Pacifique, et il y a les questions surtout de paix et de sécurité régionale, où le grand frère, ou en tout cas le mastodonte chinois est à peine voilé quand Emmanuel Macron parle de ces questions de sécurité régionale. Donc un premier coup de fil, mais qui sûrement présage d'une relation, à mon avis, qui va aller de mieux en mieux, en tout cas on l'espère, entre la France et l'Australie.
Oui, parce qu'on vient d'en parler, hein, les relations se sont totalement dégradées quand l'Australie a rompu le contrat des sous-marins français. C'était en septembre, si mes souvenirs sont bons. Les enjeux, là, ils sont pas du tout cachés. C'est l'urgence climatique, c'est les défis stratégiques en Indo-Pacifique, on vient de le dire. Le fait qu'il y ait un changement de politique à la tête de l'Australie, c'est probablement annonciateur d'un réchauffement des relations. Pourtant, on apprend aussi qu'un des premiers coups de fil d'Albanese après sa victoire, ça a été pour Boris Johnson. Donc, Anthony Albanese reste dans la continuité de Scott Morrison dans cette histoire de sous-marin. Donc, on n'en est plus à l'étape du coup dans le dos, comme disait Jean-Yves Le Drian, parce que ça s'est passé, c'était il y a plusieurs mois. On espère que les relations vont se réchauffer avec cette nouvelle politique en Australie. Mais pour autant, concrètement, on en est où ? Il n'y a encore rien d'annoncé, mais même dans la région Indo-Pacifique, on en est où concrètement ?
Alors, sur la question, effectivement, Marianne, vous avez raison, sur la question des sous-marins, le point n'est plus de savoir si l'Australie va revenir et va retoquer à la porte de la France et de Naval pour prendre les sous-marins français. Ça, avec...
C'est sûr que non.
Voilà, il y a eu un partenariat stratégique, hein, qui a été fait. C'est pas simplement une commande commerciale qui a été annulée et une autre qui a été prise. C'est, il y a un vrai partenariat stratégique dont l'Australie a été à la tête, qui est le partenaire qui s'appelle AUKUS, hein, pour Australia, UK et US, autour de la livraison d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire. Donc c'est un programme qui est différent, c'est un autre partenariat stratégique, c'est plein d'autres considérations militaires, géostratégiques. Donc ça, il n'est plus question de revenir sur ce dossier-là. Ce qui est encore en train de se négocier là entre l'Australie et la France, c'est les dédommagements, c'est les, voilà, c'est les clauses contractuelles, etc. C'est où on en est de l'après-naval, si vous voulez. Donc ça, effectivement, il n'est plus question de revenir sur ça. La question, c'est encore une fois, c'est les défis de l'Indo-Pacifique. C'est comment est-ce que sur plein de domaines de coopération variés, que ce soit la technologie, que ce soit l'environnement, que ce soit même les ressources halieutiques. Et c'est assez intéressant parce que dans les épisodes avec Christophe, on parlait souvent d'un sujet qu'on considérait comme anecdotique, mais qui en fait était extrêmement important pour les deux parties, en l'occurrence l'Union européenne et la Grande-Bretagne, qui était la pêche. La pêche était cruciale dans le Brexit. Et ben, dans cette région du monde, ce qui concerne les ressources halieutiques, c'est tout autant crucial pour les pays de la région. Mais donc voilà, dans tous ces domaines-là, il faut que la France et l'Australie coopèrent pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a des territoires qui sont disputés. L'Australie avait suivi de très près, Marianne, la consultation référendaire en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Pourquoi pas pour savoir si le caillou resterait français, ou parce que la France est plus belle parce qu'elle a la Nouvelle-Calédonie, si, pour citer Emmanuel Macron de tête quand il avait fait sa déclaration. Mais parce que, en fait, si la Nouvelle-Calédonie était amenée à devenir indépendante, la peur de l'Australie, c'est qu'elle tombe très rapidement sous l'influence chinoise. On le sait aujourd'hui, la Chine est de loin, Marianne, la première destination d'exportation pour la Nouvelle-Calédonie, notamment pour le nickel. Donc, il y a ce risque, y a ce risque-là, il y a cet enjeu qui est commun pour les deux pays. Et puis, surtout, c'est que la Chine n'a pas attendu le refroidissement des relations entre l'Australie et la France pour commencer son entreprise d'expansion dans la région. Si vous vous rappelez, Marianne, il y a quelques semaines de ça, il y a eu un récent accord cadre de coopération en matière de sécurité entre la Chine et les îles Salomon. Mm-hmm. C'est un danger majeur, pas que pour l'Australie, mais pour tous les partenaires dans la région, pour la France et pour les États-Unis. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant la Chine est capable d'envoyer sur les îles Salomon des policiers, des militaires et d'autres forces armées si l'archipel en faisait la demande, pour maintenir leur social notamment, et plein d'autres choses.
D'ailleurs, en ce moment, la ministre des Affaires étrangères australienne, Penny Wong, elle est en déplacement dans la région Indo-Pacifique, et elle était au Fidji hier. Et en même temps, le ministre des Affaires étrangères chinois est aux îles Salomon pour parler justement de cet accord de sécurité.
Exactement. C'est peut-être qu'en géopolitique, c'est comme en science, la nature a horreur du vide. Donc, si c'est pas l'Australie, si c'est pas les pays de l'axe Indo-Pacifique qui viennent, qui proposent leur aide, qui mettent en place des accords de coopération, ce sera la Chine. Et donc, c'est pour ça en fait que pour l'instant, on en est encore aux consultations, au programme par Albanese. Hein, rappelons-le pour les auditeurs. D'SBS en Australie ou d'ailleurs ailleurs, on en est encore à la première semaine du nouveau gouvernement. On a encore plein de ministres qui n'ont pas été annoncés.
Oui, bien sûr.
Mais donc tout ça, ça va venir en place. Et puis même sur des sujets, j'allais dire peut-être un peu plus anecdotiques, sur les questions de, par exemple, d'agriculture, en Australie, on sait déjà que le gouvernement albanaisé va favoriser un espèce de stream, de filière focalisée sur les pays du Pacifique, alors que pour la coalition, il était plus question de faire venir des talents de l'étranger. Alors pourquoi il y a cette position-là d'Albanese ? Bah, c'est encore une fois, si les talents du Pacifique sur ces questions d'agriculture, si ces talents ne sont pas captés par l'Australie, ils seront captés par la Chine. Donc vous voyez, on est effectivement, pour l'instant, il n'y a pas encore de choses qui sont décidées, mais c'est aussi très symbolique que Penny Wong, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, soit en déplacement dans la région et soit déjà nommé par Albanese, alors que la majorité du gouvernement, on ne la connaît pas encore.
Et Nathanaël, avant de se quitter, en quelques mots, je voudrais quand même qu'on revienne à l'échelle européenne et qu'on parle rapidement de l'accord de libre-échange avec l'Europe qui est encore en négociation. Il est en négociation depuis 2017, il ne voit pas le jour. Il y avait un espoir qu'il voit le jour avant la fin de l'année 2021, mais puisqu'il y a eu la crise des sous-marins, ça a mis complètement un coup d'arrêt à ces négociations. Il faut savoir que l'Union européenne, c'est le troisième plus grand partenaire commercial de l'Australie. Si je donne quelques chiffres, hein, juste pour qu'on ait une idée, en 2020, il y a eu 36 milliards d'euros d'échanges de biens et 26 milliards d'euros d'échanges de services entre l'Australie et l'Union européenne. Pour autant, il n'y a pas encore d'accord de libre-échange, ce qui signifie des taxes douanières extrêmement élevées, notamment pour les biens agricoles australiens qui arrivent en Europe. On en est où du fait qu'il y a un nouveau gouvernement en Australie, un second mandat d'Emmanuel Macron, avec tout ce qui se passe en Europe actuellement, on en est où de ces négociations pour cet accord de libre-échange?
Alors c'est un très bon point, Marianne, c'est que en fait, ça souligne que la rupture de ce qu'on appelait le contrat du siècle, ça n'avait pas simplement à l'époque refroidi les relations entre l'Australie et la France, ça avait aussi mis un coup d'arrêt aux discussions de l'accord de libre-échange entre l'Australie et l'Union européenne. Et comme vous l'avez dit, hein, c'est un accord de libre-échange, ça peut paraître un peu barbare comme mot, mais très concrètement, c'est ça. C'est que quand vous avez des échanges commerciaux entre deux pays, les droits de douane sont plus élevés, les taxes sont plus élevées, et donc vous avez moins de commerce qui se fait entre ces deux pays. Dans l'Union européenne, on n'est pas du tout habitué à ça, parce que par définition, avec l'espace Schengen, notamment, on a cette liberté de circulation des marchandises, des biens, des services, des personnes. Mais n'importe quel pays dans le monde, Marianne, qui est en dehors d'une alliance commerciale, doit négocier des accords bilatéraux, soit avec d'autres pays, soit avec des organisations. Donc des pays comme l'Australie, à chaque fois, pour chaque pays, pour chaque entité, ils doivent négocier un accord de libre-échange pour favoriser le commerce. Donc ça, c'est la première chose. Sur l'accord lui-même, on avait un 12e round qui avait été prévu en 2021, donc avant l'épisode des sous-marins. On avait des rounds de manière très régulière. Et puis... ce qui s'est passé, c'est que ce round a seulement eu lieu en février 2022, et c'est énorme, hein, cet accord, ça fait maintenant plusieurs années qu'il est dans les tuyaux. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, les pays européens n'étaient plus prêts à négocier avec l'Australie, ils voulaient aussi montrer symboliquement que cette histoire sous-marin, c'était pas simplement un coup d'arrêt, encore une fois, à la relation France-Australie, mais c'était aussi, d'une certaine façon, une rupture de confiance avec tous les partenaires européens. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que l'Australie, encore une fois, a besoin de conclure des accords de libre-échange avec tous les pays, avec lesquelles elle fait du commerce. Et donc, dans l'intervalle, l'Australie, ne pouvant stagner, a conclu des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni et avec l'Inde. Donc ça, c'est le contexte qu'on a. L'accord de libre-échange en lui-même n'est pas stoppé, hein, on continue. Et quand on parle de round, c'est qu'à chaque fois, pour chaque différent round, on va appeler ça des séquences de négociations, on négocie des choses très particulières. Et ça peut être des choses très anecdotiques, mais qui en fait vont avoir un impact très important. Par exemple, les appellations d'origine contrôlée, on en a beaucoup parlé en Australie notamment, c'est que la France, pour plein d'appellations d'origine contrôlée, le camembert, le champagne, n'a pas envie que l'Australie, après, inonde le marché européen parce qu'il y aura des produits qui reprendront ces appellations, mais qui seront de moins bonne qualité. Donc, vous voyez, il y a ça, mais il y a même l'exemple peut-être un peu plus rigolo de la feta grecque ou de la mozzarella. Donc, vous voyez, c'est des points très anecdotiques, mais à partir du moment où il y a un accord qui est signé, on peut pas revenir en arrière. En tout cas, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que tout doit être bien calé. À l'heure où on se parle, à l'heure où on enregistre, Marianne, on sait pas encore trop. C'est pas du tout dans l'agenda. Politique urgent des travaillistes, et même si on prend un pas un peu en arrière, quand on regardait avant les élections, que ce soit pour le coup du côté ou de la coalition de Scott Morrison ou du travailliste de Labour ou même des écologistes ou des indépendants, les questions européennes n'étaient pas du tout dans ce qu'on appelle ici la plateforme politique. Il y avait rien. Vous pouviez même faire de la recherche par vous-même, c'était très difficile de trouver une information. Donc c'est pas quelque chose. J'allais dire, c'est quelque chose qui n'est pas stoppé, cet accord de libre-échange, mais pour l'instant, c'est pas au sommet de l'agenda personnel d'Albanese. Après, encore une fois, voilà, les relations se réchauffent et j'ai bon espoir parce que ça profitera aux deux entités, à la fois à l'Australie et à l'Union européenne, que cet accord de libre-échange continue et puis qu'il soit à un moment signé entre les deux entités, ce qui permettra de réchauffer les relations, de retrouver les échanges de business, de personnes, etc.
Évidemment, un accord, ça va dans les deux sens. Et là, on a beaucoup parlé du sens Australie vers Europe. Mais pour l'Union européenne, ça serait aussi un accès plus facile au marché public, la réduction des barrières commerciales, notamment pour les produits chimiques, les machines, l'industrie alimentaire, etc. Nathanaël, on manque de temps à mon grand désarroi. Donc, on va s'arrêter là pour l'Europa Voice numéro 97. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marine. C'était un plaisir d'enregistrer ce numéro avec vous.
fin d'émission, un rappel des grands titres de ce mardi 31 mai. Le Premier ministre Anthony Albanese s'engage à ne pas perdre du temps au gouvernement avant d'annoncer son nouveau ministère. L'Union européenne s'engage à un embargo partiel sur le pétrole russe. Un journaliste français de la chaîne BFM TV tué en Ukraine par les forces russes. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Et je vous laisse en compagnie de Paris Combo, scène de la vie parisienne. Belle journée, à bientôt.
Empreint du silence qui règne quelques mètres sous les quais. Oh, oh, oh. Nous nous croyons bien seul au monde à la rumeur ainsi soustrait.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.